One Year Later, les oreilles loin du front à l'heure anglaise. Depuis que je suis passée de l'autre côté de la Manche, j'écoute les oreilles en décalé. Retour sur votre émission de la semaine dernière, alors que j'étais sous le soleil indécent d'une semaine de vacances. Mais pas vous. Vous receviez Hugo Paletta, habitué émérite des oreilles, auteur d'un récent ouvrage intitulé « Découvrir la révolution des œillets, Portugal 1974-1975 », paru aux éditions Sociales. Une émission en forme de rappel ou d'introduction pour celles et ceux qui, grandes et grands romantiques comme moi, ne connaissaient du 25 avril 1974 que ce nom de fleur des œillets et cette fameuse chanson « Grandola Villa Morena, Grandola Villebrune » de José Alfonso. Mais si, la terre de fraternité, quoi. Un rappel ou une introduction donc aux événements de ce printemps 1974, et c'est même le principe de cette collection. Votre invité le rappelle en début d'émission, cette collection est vraiment là pour donner envie d'en savoir plus. Il cite d'ailleurs d'autres ouvrages beaucoup plus exhaustifs et détaillés sur ce qui s'est passé avant, pendant et après. En tous les cas, j'avais quant à moi effectivement bien besoin de ces premières informations, car si je connaissais quand même la dictature de Salazar et les colonies portugaises, ça s'arrêtait à peu près là. Pourtant, c'est bien ce contexte géopolitique qui joue un rôle essentiel dans ces événements. Nous sommes en effet en 1974, en pleine série de guerres coloniales en Afrique que la dictature refuse de perdre. Hugo Paletta souligne d'ailleurs la particularité de cette situation, un si petit pays, si pauvre, mais doté de ce grand empire colonial. Cette série de guerres est en fait en train d'épuiser les ressources financières de l'État et surtout ses ressources humaines, car les pertes sont colossales et touchent de près un très large pan de la population portugaise. Au sein même de l'armée, ça commence à gronder devant ces pertes humaines et devant l'évidence du constat d'échec que le pouvoir se refuse à voir. C'est donc de là que tout va démarrer, d'un groupe de militaires intermédiaires, les capitaines d'Avril, qui vont se dresser contre le régime pour mettre fin à ces guerres. En tant qu'officiers subalternes ou intermédiaires, en tout cas sur le terrain, ils mesuraient vraiment les dégâts et se mobilisent donc pour que cela cesse. Cette révolution est donc avant tout un coup d'état militaire de cette organisation, le MFA, le mouvement des forces armées, mais elle a cela de particulier que ces militaires portent un projet démocratique. Ils veulent mettre en place des élections et portent des avancées sociales super progressistes. Avec le contexte qu'on a cité tout à l'heure, on comprend donc que la population n'ait pas répondu à leur mot d'ordre et soit descendue dans la rue. C'est au final ce relais populaire qui a permis d'en faire une vraie révolution. Ces groupes d'ouvrières et d'ouvriers qui s'organisent en commission, qui font grève, qui manifestent, ces habitantes et ces habitants qui s'auto-organisent, ces paysannes et ces paysans qui montent des coopératives, ces étudiantes et ces étudiants, c'est toute cette poussée populaire qui en fait une vraie révolution. Et même au-delà, puisqu'elle fait pencher le MAF vers la gauche. C'est donc grâce à tout cela que la société va avancer très fort à ce moment-là sur les élections libres, les libertés publiques, les services publics, la protection sociale, les congés payés, sans oublier bien entendu le droit des femmes. Car comme toujours, si elles ne sont pas aux avant-postes de cette révolution, elles sont déterminantes pour mobiliser et faire bouger les choses. Bref. Le pays penche à gauche et la constitution de l'année qui suit en 1976, ce même si la révolution est un peu moins vive que l'année d'avant, cette constitution a des accents progressistes très prononcés dans beaucoup des formulations qu'elle utilise. Au final, toutes ces avancées que la Troïka plus récemment s'est régalée à démanteler lors de la dernière crise de la dette. Hugo Paletta confirme d'ailleurs l'esprit encore très revanchard de la droite, et même de l'extrême droite, car malgré cette histoire encore récente, le Portugal n'échappe pas à cette tendance. Comme partout ailleurs, l'extrême droite se présente en bouclier anti-élite politique, et il faut reconnaître que le dernier scandale de corruption au plus haut niveau, dont on attend encore le jugement, l'a bien aidé à émerger. Toutefois, certaines des avancées sociales résistent et sont toujours là, toutes n'ont pas été démantelées, et surtout la mémoire reste ultra vive au sein de la population. Au final, une émission qui donne à voir du Portugal un autre aspect que les si nombreuses annonces des Airbnb qui sont en train de mettre à mal les grandes villes du pays, et une émission à succès, puisqu'on en ressort avec l'envie d'en savoir bien plus. À réécouter sur www.loldf.org. Bonne émission ce soir, à la semaine prochaine, et d'ici là, I'm a Lear, enfin, je suis toutes oreilles, quoi.